Quand j'étais enfant, mes parents m'ont enseigné que je ne pouvais compter que sur moi-même et sur la famille. Comme ils ne connaissaient pas de véritables croyants, ils avaient raison dans la mesure où dans notre société occidentale, comme d'ailleurs dans toutes les autres, la fourberie est la norme. C'est plus qu'évident en politique et dans le monde des affaires où de temps en temps des abus de confiance flagrants entraînent l'effondrement des bourses mondiales. Que le mensonge règne partout est compréhensible puisque le monde est sous la coupe du diable et Jésus a dit que le diable est meurtrier, qu'il n'y a pas de vérité en lui et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. La duplicité et l'hypocrisie sont tellement répandues que les gens qui ne se connaissent pas sont sur leur garde et font une sorte de psychose de la méfiance. Dans le domaine religieux aussi, la fourberie est monnaie courante. Les imposteurs sont légions et souvent ils sont à la fois trompés et trompeurs. La grande question est donc, qui croire? D'après l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous pouvons faire entièrement confiance à Dieu pour plusieurs raisons. D'abord parce que personne n'est aussi grand que lui, et on sait qu'il ne peut pas mentir. Ensuite, il ne possède aucun travers humain et vise toujours des objectifs nobles, dignes de sa personne. En troisième lieu, on peut lui faire confiance parce que dans son alliance avec Abraham, il n'a pas hésité à prêter serment par lui-même. Effectivement, dans le chapitre 6, on lit que lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Versets 13, 16 et 17. À l'époque de l'Ancien Testament, on jurait sur l'autel, sur le grand prêtre ou même sur Dieu. En outre, nul ne mettait en doute que ce serment serait honoré. Bien que Dieu ne mente pas et que sa parole soit suffisante, il a condescendu à prêter serment en jurant par lui-même afin de donner davantage d'assurance à Abraham et à ceux qui, comme moi, sont lents à croire. L'Éternel donnait ainsi la preuve la plus absolue qu'il ne reviendrait pas sur ce qu'il avait dit. Dieu a juré au père Abraham qu'il accomplirait ses promesses, et en particulier qu'il aurait une descendance nombreuse et puissante. Il lui a dit, « Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants, et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. » Des rois même seront issus de toi. Par contre, vis-à-vis des croyants, Dieu s'est investi d'une toute autre manière. Selon ce qu'écrit l'apôtre Paul, le gage de son engagement envers nous est le don du Saint-Esprit. Je lis de passage. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Soit dit en passant que dans le grec moderne, le mot pour engagement que Paul utilise désigne une bague de fiançailles. La présence du Saint-Esprit nous est donc accordée comme art, comme gage, comme preuve absolue que Dieu accordera la vie éternelle à tous ceux qui placent leur espérance en Jésus-Christ. Je continue l'Épître aux Hébreux. Ainsi, ces deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, constituent un puissant encouragement pour nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Verset 18. Ces deux actes irrévocables sont d'une part la promesse et ensuite le serment que Dieu a fait au père Abraham. Tout d'abord, Dieu lui a dit « Contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Plus tard, il a confirmé cette promesse par un serment qui était, « je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. » Fin de citation. Le mot traduit par « irrévocable » signifie qu'il ne peut pas être changé ou modifié. À l'époque, il était fréquemment utilisé dans les testaments qui, une fois dûment rédigés, devenaient irrévocables. En ce qui nous concerne, la façon dont Dieu a traité Abraham, le serment qu'il lui a fait, les promesses qu'il a tenues sans sa participation, font partie des Écritures afin que nous y trouvions un puissant encouragement à lui faire confiance sans réserve. Dieu nous a promis la vie éternelle, et c'est une promesse qui est aussi digne de foi et irrévocable que celle qu'il a faite à Abraham et qu'il a tenue. Et même s'il ne nous a pas prêté serment, en contrepartie, il nous a donné des arts en la personne du Saint-Esprit. De toute façon, notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. En effet, nous n'en avons pas d'autre. Quand Jésus a demandé à ses disciples s'ils allaient le quitter, Pierre lui a répondu « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Le mot grec pour « refuge » est l'équivalent de « ville de refuge » qui dans l'Ancien Testament servait à abriter ceux qui avaient accidentellement commis un meurtre et qui étaient poursuivis par le vengeur du sang, des membres de la famille de la victime qui voulaient venger la mort de leurs parents. Je lis un passage. « Ces villes vous serviront d'asile pour protéger le meurtrier de l'homme chargé de punir le crime, afin qu'un meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. Une fois que la mort était reconnue involontaire, le coupable de l'homicide était protégé, mais obligé de rester confiné à l'intérieur de la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre en exercice. S'il la quittait, le vengeur du sang pouvait se saisir de lui et le mettre à mort. Ces villes de refuge symbolisent Jésus-Christ qui est notre espérance parce qu'il protège de la justice de Dieu et de la mort tous les pécheurs qui se réfugient auprès de lui à l'ombre de la croix. Tous les hommes ont déjà été déclarés coupables, mais ceux qui ont placé leur confiance en Jésus sont libres de toute condamnation et de toute entrave parce que leur grand prêtre est mort. Mieux encore, il a été jugé à leur place, puis est ressuscité. Je finis maintenant le chapitre 6 de l'Épître. Cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du rideau qui fermait l'entrée du lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Versets 19 et 20. Dieu s'est montré digne de confiance envers Abraham, premièrement à cause de sa grandeur et de son caractère, ensuite à cause de la noblesse de ses objectifs, et troisièmement en prêtant serment par lui-même. La quatrième raison de lui faire confiance qui nous est donnée est Jésus, qui est notre grand prêtre, l'ancre de notre âme, celui qui nous assure la vie éternelle. Sous l'ancienne alliance, une fois l'an, le jour des expiations appelé Yom Kippour, le grand prêtre pénétrait dans le lieu très saint du sanctuaire et enduisait de sang le couvercle du coffre sacré, puis ressortait aussitôt. Il ne pouvait pas s'attarder sous peine d'être frappé de mort par l'Éternel. Sous la nouvelle alliance, ce sacrifice a été offert une fois pour toutes sur la croix par Jésus qui est ainsi devenu notre grand prêtre. Il est ensuite entré avec son propre sang dans le sanctuaire qui se trouve dans les cieux, puis s'est installé à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'espérance de ceux qui placent leur confiance en Jésus est comparée à l'ancre de notre âme, ce qui suggère un port dans lequel l'âme peut venir s'amarrer à l'endroit le plus sûr de l'univers, dans le lieu très saint, céleste, là où Jésus-Christ est assis, ce qui fait que la sécurité du croyant est absolue. Nous arrivons au chapitre 7 où commence le plus long exposé de l'Épître, ce qui indique aussi son importance. Son thème est le sacerdoce de Jésus. L'auteur a expliqué la grandeur de son ministère dans les cieux, sa supériorité sur toutes les institutions de l'ancienne alliance et révélé les privilèges que possèdent les croyants grâce à la mort expiatoire du Christ, leur grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. L'auteur a déjà mentionné ce personnage à deux reprises. La première fois, il écrit que Dieu a dit à son fils « Tu es prêtre pour toujours dans la ligne de Melchisédek », ce qui est une citation d'un psaume. Mais à ce moment-là, l'auteur ne s'est pas arrêté sur lui parce qu'il doutait que ses lecteurs le comprennent. Puis, il parle de lui une seconde fois à la fin du chapitre 6 où il dit simplement que Jésus est devenu grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Les Écritures sont relativement brèves concernant ce personnage mystérieux et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous donne le plus de détails à son sujet. Son nom apparaît une première fois dans le livre de la Genèse au temps d'Abraham et suite à une guerre. À une certaine époque, 4 rois de l'Est se sont alliés et ont attaqué 5 rois de l'Ouest, c'est-à-dire ceux qui se trouvaient dans les environs de la vallée qui est aujourd'hui la mer Morte. Les rois de l'Est ont remporté une grande victoire et ont emmené une longue colonne de gens en esclavage ainsi que beaucoup de richesses des villes conquises, dont celle de Sodome où habitait Lot, le neveu d'Abraham. Ce dernier n'avait que faire de ces guerres, mais quand il apprend que son neveu faisait partie de la charrette des déportés, son sang ne fit qu'un tour. Il arma 318 hommes qui faisaient partie de sa maisonnée, rattrapa les rois de l'Est, les attaqua en pleine nuit et les vainquit. Il récupéra tout le magot et toutes les personnes dont Lot, son neveu. C'est alors, nous dit le texte, que Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes, « Que le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham et béni soit le Dieu Très-Haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. » Et Abraham lui donna le dixième de tout le butin. Fin de citation. Le livre de la Genèse ne dit rien de plus sur ce personnage mystérieux qui sort des textes sacrés aussi abruptement qu'il y était entré. Dans l'histoire sacrée, tout ce qui est dit de cet homme montre que les Écritures sont cohérentes et inspirées de Dieu. Nous ne trouvons que 3 versets dans le livre de la Genèse concernant Melchisédek. Cependant, il souligne que c'était un personnage important. Environ 1000 ans plus tard, le roi David le mentionne comme ça en passant dans un psaume et nous apprenons que son sacerdoce était prophétique puisqu'il annonçait celui du Messie. Puis plus rien. Un autre millénaire passe et l'auteur de l'Épître aux Hébreux arrive sur scène et lui par contre est très éloquent concernant Melchisédek. Il nous donne beaucoup de détails sur lui qui jusque-là n'avaient pas été révélés ni à Abraham ni à Melchisédek lui-même et que David n'avait fait qu'entrevoir. On constate donc que la Genèse, les psaumes et l'Épître aux Hébreux sont unis par Melchisédek et qu'ils ont une seule et même origine, le Saint-Esprit qui est l'auteur de toutes les Écritures. L'Ancien Testament comprend de nombreuses figures et illustrations imparfaites et provisoires qui avaient un objectif prophétique, qui annonçait la venue du Christ qui lui est parfait et éternel. Par exemple, l'agneau que les Juifs sacrifiaient quand ils célébraient la Pâque annonçait Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. L'histoire du serpent de bronze est également très prophétique. Quand l'Éternel a dit à Moïse « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche, celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Ce serpent annonçait Jésus sur la croix. En effet, l'apôtre Jean écrit « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. » Fin de citation. Melchisédek aussi est une figure prophétique de l'Ancien Testament. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur l'utilise pour montrer que par son sacerdoce et par la signification de son nom, il annonçait Jésus, quelqu'un de bien plus grand que lui. En effet, Melchisédek n'était qu'un pâle reflet, une lointaine image du Christ, qui lui est la réalité, et celui qui, au temps marqué par Dieu, devait venir dans le monde comme sauveur et seigneur. On ne sait rien de la famille de Melchisédek, sa naissance et sa mort, mais par contre, l'auteur de l'Épître dit qu'il demeure prêtre pour toujours, parce que son sacerdoce n'était pas transmissible. En cela, il annonçait la venue de Jésus ainsi que son rôle de grand prêtre dans les cieux pour toujours. Je commence maintenant à lire le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Ce Melchisédek était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le dixième de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisédek signifie « roi de justice ». Ensuite, il est « roi de Salem », ce qui veut dire « roi de paix ». Versets 1 et 2. Ce chapitre commence avec un résumé succinct de la guerre qu'à l'époque d'Abraham, les quatre rois de l'Est ont menée contre les cinq rois de l'Ouest. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Salem est l'un des anciens noms de Jérusalem. Même si on a peu de renseignements sur Melchisédek, on sait que c'était un personnage très important, pas seulement parce qu'il était roi d'une ville, mais roi de paix, et surtout parce qu'il était prêtre du Dieu très haut. Cela veut dire que Aaron, frère de Moïse, n'a pas été le premier prêtre important de l'histoire de l'humanité, et le sacerdoce lévitique, issu de sa personne, n'a pas non plus était le premier. Jéthro, beau-père de Moïse, est aussi appelé prêtre, mais de Madian, et non pas du Très-Haut comme Melchisédek. Madian était une tribu qui descendait d'Abraham, et aussi une région située dans la péninsule du Sinaï. L'auteur va montrer la supériorité du sacerdoce de Melchisédek sur celui d'Aaron qui descendait de Lévi, le troisième fils de Jacob et de Léa. Dieu a choisi cette tribu pour le service du culte. Pourtant, les Lévites ne formaient pas une classe supérieure qui dominait sur les autres. C'étaient des sujets ordinaires soumis au roi. Par contre, leur fonction cultuelle était indépendante de l'autorité royale. Les Lévites n'étaient pas tous prêtres, mais tous les prêtres étaient Lévites et descendaient d'Aaron. C'était un sacerdoce héréditaire. On devenait prêtre parce qu'on appartenait à cette famille et rien d'autre n'était exigé. Chaque jour, les prêtres devaient offrir des sacrifices. Ils étaient particulièrement nombreux lors des fêtes et devaient sans cesse être répétés sans jamais accomplir quoi que ce soit de durable. Le sacerdoce lévitique était au cœur de la religion juive car sans le ministère des prêtres, nul ne pouvait offrir de sacrifices. Et sans eux, il n'y avait pas de pardon des péchés. Même si l'obéissance à la loi était très importante, les sacrifices l'étaient encore bien davantage, d'où le rôle capital des prêtres dans le judaïsme. La loi de Moïse que l'Éternel avait donnée à son peuple était sainte et le commandement saint, juste et bon, écrit l'apôtre Paul. Le problème venait des Israélites qui, comme le reste de l'humanité, étaient pécheurs par nature et donc incapables d'obéir parfaitement à la loi. De là l'obligation d'offrir des animaux en sacrifice afin que le sang versé couvre les fautes du coupable. L'Israélite pécheur prouvait la sincérité de sa repentance en obéissant aux conditions fixées par l'Éternel, c'est-à-dire en offrant un animal pour ses fautes. Alors Dieu l'acceptait et lui accordait le pardon. Le sacerdoce de Melchisédek est supérieur à celui d'Aaron pour plusieurs raisons et ils ressortent dès les premiers mots de ce chapitre. L'auteur dit « Ce Melchisédek était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut », ce qui contraste avec les prêtres juifs qui étaient seulement au service d'Israël, le peuple de l'Éternel. Melchisédek, par contre, était prêtre du Dieu Très-Haut, un nom qui transcende les distinctions ethniques. Il offrait des sacrifices pour tout un chacun, pour tous ceux qui avaient foi au seul vrai Dieu. De toute façon, à cette époque, la race juive n'existait pas puisqu'elle était encore dans les reins d'Abraham. L'auteur a déjà dit que le sacerdoce du Christ est selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire qu'il est universel. Jésus est à la fois le grand prêtre des Hébreux et des non-juifs. Non seulement la nouvelle alliance en Jésus-Christ remplace l'ancienne, celle de la loi et du sacerdoce lévitique, mais elle la précède aussi en la personne du prêtre-roi Melchisédek. En effet, Jésus est devenu grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron, qui n'est venu que 5 siècles plus tard. Jésus n'est pas seulement le sauveur des Juifs, mais du monde entier. Voilà pourquoi il faut le faire connaître à tous les hommes.